Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication de ce matin. Alors comme Timothée va continuer la série sur Abraham, nous allons aller dans Genèse premièrement, à Genèse 13, pour lire les 13 premiers versets. Genèse 13, des versets 1 à 13. Genèse 13, des versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguèb. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguèb jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Ensuite, nous allons continuer dans le chapitre 14, des versets 17 à 20. Donc Genèse 14, des versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ensuite, nous basculons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Épître aux Hébreux, chapitre 7, des versets 1 à 2. Ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et, en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et maintenant, nous allons dans la seconde épître de Pierre, en 2 Pierre 2, des versets 6 à 9. 2 Pierre 2, des versets 6 à 9. 2 Pierre 2, 6, 9. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Jusqu'ici, les quatre textes qui viendront en appui de la prédication. Donc, je vais laisser la place à Timothée.
Alors, pour comprendre la petite histoire que je vais vous raconter, il faut revenir à peu près 10 ans en arrière. Donc, ceux qui n'ont pas encore 10 ans, faudra peut-être demander des explications à d'autres par la suite. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas de téléphone portable et qui se trouve à la gare et qui doit lancer un coup de fil. Et enfin, il trouve une cabine. Mais elle n'est pas éclairée. Et il cherche un interrupteur autour de la cabine. Que faire ? Soudain, un homme s'approche de lui et lui dit aimablement « Entrez d'abord dans la cabine et elle s'éclairera. » Vous vous rappelez ? C'est comme ça que ça marchait. Et il obéit, il entre dans la cabine et la lumière se fait. Et il peut lancer son coup de fil. Ainsi, bien des gens aimeraient obtenir la lumière sur les problèmes de la foi, mais veulent d'abord voir et comprendre pour ensuite croire. Ils font fausse route, ils agissent à l'envers. Nous devons d'abord entrer dans le monde caché de la foi et ensuite seulement nous verrons, nous comprendrons. Mais ce seront encore les... et seront à ce moment-là d'authentiques témoins de transformation. Eh bien ce matin, nous sommes invités à entrer dans le monde de la foi qui est la parole de Dieu en comptant sur la lumière du Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs et notre intelligence. Nous avons débuté la dernière fois une petite série sur le personnage d'Abraham, un personnage qui est important, hein, qu'on trouve à beaucoup d'endroits dans la Bible. Voilà pourquoi nous prenons aussi un peu de temps pour parler de lui. Et nous avions terminé la dernière fois avec 6 caractéristiques de cette foi naissante. Si jamais il y a des petits papiers pour les enfants derrière, vous pouvez vous lever, les prendre, il n'y a pas de problème. Si jamais, ou pour ceux qui veulent suivre, donc il y en a derrière, il y a des crayons, n'hésitez pas. Voilà, comme ça je reviens. Donc il y a 6 caractéristiques de cette foi naissante qu'on a vues rapidement la dernière fois. La première fois, c'est que la crainte du Seigneur accompagne la foi. Deuxièmement, ce n'est pas les bonnes œuvres, mais la confiance obéissante qui est le fondement de la foi. La séparation d'avec le monde caractérise la foi. Ensuite, la saisie de la promesse de Dieu nourrit la foi. Cinquièmement, croire que Dieu peut accomplir l'impossible soutient la foi. Et sixièmement, le don de Dieu est la source de la foi. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans cette foi naissante. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la pratique de la vie de foi d'Abraham dans la vie de tous les jours. Souvent, quand on pense à Abraham et sa foi, on pense au sacrifice d'Isaac. Bon, ça, ce n'est pas tout à fait de la vie de tous les jours. On en parlera, mais pour aujourd'hui, on ne va pas aller dans cette direction. C'est plutôt dans la vie de tous les jours qu'on va réfléchir. Parce que Abraham vivait déjà sa foi dans la vie de tous les jours. Et nous pouvons constater dans nos vies que nous agissons selon nos habitudes, en fait. Nous pouvons constater dans nos vies que nous agissons selon nos habitudes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des petits papiers, eh bien, quand je dis une phrase 2 fois, souvent, c'est qu'il faut remplir quelque chose. Des fois, je dis une phrase 2 fois parce que je le souligne en dehors aussi, mais voilà, ça donne un petit repère. Donc, nous pouvons constater dans nos vies que nous agissons selon nos habitudes. Il ne faut pas s'attendre à avoir une foi dans des grandes choses si on ne s'exerce pas à avoir la foi dans des petites choses. Alors, pour suivre Abraham dans sa vie, dans sa foi de tous les jours, eh bien, on se concentrera aujourd'hui particulièrement sur sa relation avec Lot, puisqu'en fait, Lot l'a accompagné. Et puis, on va même rencontrer un personnage particulier, Melchisédek, dans ce petit périple. Nous allons voir 5 caractéristiques de la foi d'Abraham dans notre parcours de ce matin. La première caractéristique sera la foi qui accueille. Abraham a accueilli Lot, son neveu. Deuxièmement, nous verrons la foi altruiste qui cherche la paix. On verra qu'Abraham a donné un choix à Lot, et c'est dans le but de chercher la paix. Troisièmement, la foi courageuse. Abraham, quand il entend que Lot est pris en fait en otage, va le délivrer. Quatrièmement, la foi généreuse, et ça on le verra face à Melchisédek. Et cinquièmement, la foi qui intercède. Quand Abraham apprend que la ville où est Lot va être détruite, il ne fait pas rien. Donc on va aussi voir. Donc à chaque caractéristique, on va plonger dans l'histoire passionnante d'Abraham. Et rappelons-nous, hein, Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ et nous sommes 2000 ans après. Donc en fait, on a la même distance de la venue de Christ que Abraham. Simplement nous, on a l'avantage de savoir ce qui s'est passé, l'œuvre de Christ. Donc Abraham vivait beaucoup de choses par anticipation de l'œuvre de Christ. Alors que nous vivons sur la base de témoignages de ce que Christ a accompli. De plus, étant donné que la Genèse qui rapporte l'histoire d'Abraham a été écrite avant la venue de Jésus-Christ, eh bien, il ne faut pas être surpris d'y trouver de la typologie qui pointe vers Jésus-Christ, hein, puisque tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Or, si Abraham est un type de Christ sur plusieurs aspects, hein, Abraham est un type de Christ pour plusieurs aspects, il est aussi un modèle de foi malgré ses erreurs et ses doutes. Il est aussi un modèle de foi malgré ses erreurs et ses doutes. C'est pour cette raison que nous allons nous approcher des caractéristiques de la foi d'Abraham sans oublier auprès de qui il plaçait sa foi. Parce que si on a la foi en quelque chose qui est inutile, qui ne nous aide pas, ça ne va pas être une foi solide qui nous permet de traverser la vie. Hein, commençons donc là par la première caractéristique, la foi qui accueille Lot, le neveu d'Abraham. Donc c'est Genèse 12, hein, si vous voulez suivre un peu dans vos Bibles. J'avais envoyé un petit mot aussi dans le groupe où vous pouviez lire tous les passages, hein, on n'a pas tout pu lire ce matin, mais qui parle de toutes ces étapes dans Genèse. Donc là on est dans Genèse 12 et à partir du verset 4, on voit là Lot. Donc dès Genèse 12, après son long arrêt à Haran, Abraham, par la foi, part sans savoir où il va. Et nous trouvons Lot avec lui. Lot est son neveu orphelin. Donc Lot avait perdu son père alors qu'ils étaient encore en Ur en Chaldée. Et puis il a été pris sous la protection de son grand-père Terah. Et puis son grand-père Terah est décédé et Abraham le prend sous son aile. Nous savons aussi que Sarah est stérile, elle n'a pas d'enfant. C'est clairement écrit dans Genèse 11, 30, dès qu'on fait connaissance d'Abraham. Donc Lot serait-il l'héritier, hein, le neveu, la famille, l'héritier qui devait poursuivre la mission qu'Abraham a reçue? Il est probable qu'Abraham y a pensé. C'est pour ça qu'il prend Lot avec lui. Et par la foi, il accueille Lot et en prend soin. Lot va donc suivre plusieurs étapes très importantes de la vie d'Abraham. Lot est là lorsqu'Abraham annonce que Dieu l'appelle à partir d'Ur en Chaldée. Dès le début, il est là, Lot. Il était présent quand Abraham a reçu cet appel. Lot part jusqu'à Haran et reste dans cette ville avec son oncle, avec Abraham, jusqu'à ce qu'il décide enfin à suivre l'appel de Dieu pour aller en Canaan. C'était à la mort de Terah, ça on a vu la dernière fois. Lot, en même temps, va aussi voir Abraham, à peine arrivé à Sichem, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un autel et il invoque l'Éternel. Il est avec lui, il est témoin. Lot va aussi voir lorsque Abraham se déplace à Bethel. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à Bethel? Il construit un autel et il invoque l'Éternel. Hein? Lot peut constater en fait que Abraham met Dieu en premier, au centre de sa vie. Lot va aussi descendre en Égypte avec Abraham. Et il voit ce qui se produit lorsque Abraham n'exerce pas sa foi. Il peut se rendre compte que cela ne vaut vraiment pas la peine de s'éloigner de la confiance en Dieu. On en parlera lors de la prochaine prédication de manière plus détaillée. Lot va donc aussi vivre le retour à Bethel après l'Égypte. Et il constate là aussi le retour d'Abraham auprès de l'Éternel, puisqu'il reconstruit un autel à l'Éternel à ce moment-là. Abraham a pris donc soin de Lot durant toutes ces années et lui a appris à s'occuper de son cheptel. Et maintenant, Lot est devenu aussi riche lui-même. Donc Abraham a accueilli son neveu, il a investi en lui, il a montré un exemple de vie de foi. En fait, il l'a traité comme son fils. Abraham a accueilli son neveu. Il a investi en lui, on pourrait dire, hein, lui a montré un exemple de vie de foi et l'a traité comme son fils. Cette foi qui accueille me fait penser, c'est vrai aussi, à toutes ces situations d'adoption. un couple qui accueille un enfant et qui lui donne tout ce dont il a besoin. Il vit avec eux, il peut les voir vivre, il peut voir leur foi, il peut voir leur doute, leur force, leur faiblesse. Et il peut constater leur confiance en Dieu. Il voit les difficultés, mais il se réjouit lorsque Dieu permet de voir les péchés qui sont confessés, repentis et pardonnés. Cette foi qui accueille est également celle qui devrait animer les parents d'enfants naturels, donc pas seulement ceux qui adoptent, mais aussi ceux qui ont des enfants biologiques. Cette foi qui accueille est également celle qui devrait animer chacun qui ont des enfants spirituels. Et cela devrait être le cas aussi pour des célibataires et des couples sans enfants biologiques. La foi qui accueille, en fait, donne le meilleur à la personne accueillie dans le but de la voir progresser dans la maturité spirituelle. Là, c'est intéressant de voir que Jésus lui-même a accueilli ses 12 disciples. Il les a accueillis, il a vécu avec eux, en fait. Jésus a accueilli ses 12 disciples qui ont vécu avec lui et il les a traités avec amour. C'est aussi ainsi que nous sommes accueillis par notre Seigneur. Ça, c'est intéressant de voir. Il a vécu avec ses disciples pendant 3 ans, ils étaient avec lui tout le temps, ils pouvaient le voir vivre. D'un coup, il le cherchait. Il est où, Jésus? Il est parti pour aller prier, par exemple. On le voit de temps en temps dans la Bible. Donc, Jésus a accueilli ses 12 disciples qui ont vécu avec lui et il les a traités avec amour. C'est aussi ainsi que nous sommes accueillis par notre Seigneur. En fait, c'est en puisant dans son accueil que nous pourrons accueillir comme Abraham. C'est en puisant dans l'accueil que Christ nous fait que nous pourrons accueillir comme Abraham a pu puiser dans l'accueil de Dieu pour accueillir Lot. On va puiser l'accueil, comme on va puiser l'amour, on va puiser le pardon pour le vivre et le donner. Et ma prière est que chacun puisse vivre la joie de cette foi qui accueille l'autre tel qu'il est et qui permet de partager un bout de chemin ensemble dans le but de s'encourager, de s'aimer et de regarder vers Christ. Ce qui sera toujours une bénédiction pour ceux qui sont avec nous et pour nous-mêmes. Abraham nous encourage donc à vivre une foi accueillante. Passons au deuxième élément, la foi altruiste qui cherche la paix. Là, on arrive dans Genèse 13, on a lu le passage ici. Voilà qu'un problème important projette d'assombrir les relations entre Abraham et Lot. Chapitre 13, verset 6, il est dit « Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. » Il y a eu des querelles. Et Abraham n'attend pas que la guerre éclate. Il ne dit pas « On verra qui se tape dessus, puis on verra quoi. » Non, non, non. Abraham n'attend pas que la guerre éclate. Il réagit dès qu'il entend les chamailleries. Il n'attend pas. Il réagit dès qu'il entend les chamailleries. Il ne dit pas que cela va passer avec le temps. Non, il faut le régler. Il ne faut pas laisser passer avec le temps. Il constate que le problème va augmenter parce qu'il n'y a vraiment plus de place. Il ne veut pas non plus que les gens du pays soient aux premières loges de lutte entre un neveu et son oncle. Surtout qu'il dit adorer le Dieu de paix qui conduit et qui bénit. Donc Abraham, verset 8, dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Abraham cherche la paix et il le dit à Lot. C'est un bel exemple en fait de gestion du conflit ici, que Abraham nous donne. Ensuite, le patriarche va plus loin encore. Il est prêt à mettre ses intérêts de côté en laissant à Lot le choix. Le verset 9 est assez fort. Il dit à Lot, « Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Abraham fait preuve en fait de désintéressement et surtout de la foi qui l'anime. Abraham a les promesses de Dieu de son côté. Il n'a pas besoin de les arracher en disant à l'autre, « Oh, toi, tu vas plutôt là, moi, je vais plutôt là parce que c'est mieux. » Non. Abraham, il a les promesses de son côté, donc il peut dire à l'autre, « Tu peux choisir. » Parce qu'elles se réaliseront. Il n'a pas besoin de forcer le destin. En fait, il peut être généreux parce qu'il a les promesses de Dieu de son côté. Pour illustrer ça, c'est vrai que dans un temps, par exemple, d'Euro ou de Mondial de foot, on n'y est pas tout à fait dedans, mais c'est bien d'y réfléchir avant. Si le fait de regarder la finale, par exemple, engendre des tensions, c'est tout à fait hypothétique, hein. Dans le couple, avec les enfants. Parce que peut-être justement le temps où vous aviez prévu de passer un temps ensemble en randonnée. Alors, moi, je ne dis pas ce qu'il faudra décider. Il y a plusieurs de manières de passer du temps ensemble. Rappelons-nous simplement la foi altruiste d'Abraham qui cherche la paix et est prêt à mettre ses propres intérêts de côté. Abraham cherche à avoir des relations saines avec Lot. Une façon importante d'honorer Dieu et de vivre ma foi, c'est d'avoir une bonne relation avec mes frères et sœurs. Le texte de Matthieu 5 est très très fort. On devrait toujours l'avoir avec nous. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ben continue à prier, à donner ton offrande. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Hein. Verset 24 de Matthieu 5. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » En fait, il est inutile de présenter de belles prières devant Dieu et de donner beaucoup d'argent, de faire des œuvres caritatives sans se réconcilier avec son frère. Parce que Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et cet amour que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres représente en fait l'amour de Christ pour tous ceux qui croient en lui. Jésus est la source de l'amour. Il est la source de l'amour. Il est la source de la foi altruiste qui cherche la paix. C'est la source. Il est la source pour toutes ces choses. Jésus nous a aimés le premier pour que nous puissions aimer. Et il l'a prouvé en mourant pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Jésus nous a réconciliés avec Dieu afin que nous ayons la paix avec le Créateur pour être en paix avec ses créatures. Connaissez-vous cet amour et cette paix? Si vous ne connaissez pas cet amour envahissant et si bienfaisant, venez à Jésus-Christ. Des fois, on peut l'avoir entendu pendant des années, mais on n'a jamais vécu cette relation d'amour avec Jésus-Christ. Venez à lui. Il a un amour à donner qui est sans limite pour ceux qui croient en lui. Et si vous ne connaissez pas la paix, la tranquillité de l'âme, n'hésitez pas à confesser vos fautes à Dieu. Il n'y a rien à minimiser. Il n'y a pas besoin de dire c'est pas grave, un péché, c'est un petit péché. Il n'y a pas besoin de le minimiser. Parce que Jésus a payé le prix fort pour que nous puissions en être libérés. En Christ, réconcilié avec Dieu, nous sommes appelés à des ambassadeurs pour Christ. Vivons donc cette foi altruiste qui cherche la paix comme Abraham qui a accueilli son neveu et qui était prêt à donner ce qui était le meilleur pour vivre dans la paix, comptant sur les promesses de Dieu. Et Abraham va encore plus loin. Il nous donne une foi courageuse, qui agit, qui n'a pas peur, qui va au secours. C'est notre troisième point, la foi courageuse. Là, c'est le chapitre 14. Ça, on n'a pas lu ce matin. Vous l'avez peut-être lu avant. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. La foi courageuse, la délivrance de Lot. Lot est descendu dans la plaine fertile de Sodome et Gomorre, hein, la plaine du Jourdain, parce qu'il a choisi ce qui lui semblait le meilleur. Abraham est resté sur les collines et l'Éternel choisit ce moment-là pour renouveler ses promesses à Abraham. Ça, c'est intéressant. En fait, Abraham vient de vivre un moment difficile, où il s'est séparé de son neveu, c'est pas qu'il voulait se séparer. D'ailleurs, comme je vous ai dit, peut-être qu'il avait l'idée que c'était celui qui viendrait comme descendant pour lui, hein, quoi, la suite. Donc c'était un moment difficile, et en plus, mais il semble que Lot a pris le meilleur. Et Dieu vient à ce moment-là, donc c'est la fin du chapitre 13, il vient à ce moment-là le fortifier. Il lui promet une descendance. Quel soulagement! Voici ce qui est dit. Regardons verset 14 du chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte que l'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. » Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te la donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc on voit que l'Éternel le fortifie,
après qu'il ait fait quelque part ce sacrifice, hein, alors qu'il ne savait pas exactement ce qui allait se passer, c'est l'autre qui a choisi, mais il le fortifie et il se déplace et il va à Hébron. Et que fait-il là à Hébron ? Il bâtit un autel à l'Éternel. C'est là, au chêne de Mamré, qu'il passera une bonne partie de sa vie, d'ailleurs. Mais voilà que les nouvelles internationales ne sont pas des plus réjouissantes. Le grand Kedorlaomer, avec quelques alliés, ont fait une rafle dans toute la vallée du Jourdain. Et un rescapé vient annoncer à Abraham que son neveu Lot, avec ses biens et sa famille, ont été faits prisonniers par le tyran. Et voici ce qui est écrit, verset 14 du chapitre 14. « Dès qu'Abraham eut appris que son neveu a été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. » Abraham ne se pose pas 36 questions. Il va avec la force qu'il a et surtout avec sa foi en Dieu qui est plus puissant que toutes les armées du monde. Abraham veut le bien de son neveu, hein, même si celui-ci ne fait pas des choix tout à fait dirigés par la foi. Hein. On a vu que Lot, en choisissant la plaine du Jourdain, ce n'était pas forcément un choix de foi. Puis on voit même que Lot, non seulement il est allé dans la plaine du Jourdain, mais il s'est rapproché de villes qui étaient mauvaises. Et non seulement il s'est rapproché de villes qui étaient mauvaises, mais il est allé dans les villes qui étaient mauvaises. Donc voilà, on pourrait dire Abraham, il peut le laisser tomber parce qu'il n'a pas tout à fait vécu d'une manière qui était juste. Mais non. Abraham ne cautionne pas Lot de s'être installé dans la ville de Sodome et d'être devenu même un membre responsable de cette ville si perverse, mais il aime son neveu. Et il va tout faire pour le délivrer. Dieu aime délivrer en utilisant de faibles moyens. Et on le voit ici, hein, 318 hommes, ils sont motivés, mais bon, c'est toute une armée qui est là. Hein. Mais Dieu aime délivrer en utilisant de faibles moyens. Rappelez-vous les histoires de Gédéon ou de Jonathan avec son serviteur. Et pourquoi en fait Dieu agit ainsi ? C'est parce qu'ainsi toute la gloire lui revient. Ils ne peuvent pas dire après c'est par ma force. Ben non, j'en avais pas. Donc c'est par sa force que nous avons pu vivre ces victoires. Aucun mérite au vainqueur qui n'a pu le faire que par la force que Dieu a donnée. Et Abraham ben, va vivre ça en fait. Il va rattraper l'armée de Kedorlaomer, il va délivrer Lot. C'est la première bataille mentionnée dans la Bible d'ailleurs. Hein. Et peu de détails sont donnés, mais l'essentiel est souligné. Dieu accorde la délivrance de Lot et sa famille et du peuple déporté. C'est l'élément essentiel en fait. La première bataille ici mentionnée, l'élément essentiel, c'est Dieu qui donne la délivrance. Donc la foi courageuse d'Abraham l'a fait entrer dans le combat. C'est sa foi courageuse qui l'a fait entrer dans le combat. Et c'est l'Éternel qui a donné la victoire. Donc la foi courageuse d'Abraham l'a fait entrer dans le combat et c'est l'Éternel qui a donné la victoire. On a plusieurs illustrations dans la Bible hein, du faible et du fort. On a David et Goliath qui est très connu aussi. On voit Dieu qui accorde la délivrance. Dieu se plaît à utiliser les choses faibles dans le monde pour confondre les fortes. Et d'ailleurs même dans le Nouveau Testament, il continue à le faire. Hein. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29 le dit très clairement. Et ça, on peut réfléchir même à nous. Hein, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ne cherchons donc pas à être forts selon le monde, à avoir une éloquence à couper le souffle, une rhétorique qui laisse pantois, un style théâtral. Ah bon, ça c'est pour celui qui parle. Après, il y a d'autres éléments. Tout cela ne laisse en fait qu'une impression et ne change pas le cœur. Quelque part, je préfère bégayer quand je prêche et que Dieu change vos cœurs que d'avoir un style magnifique et qu'il ne fasse rien du tout dans vos cœurs. Voyez la différence. Abraham, encore ici, pointe vers Christ en nous indiquant le courage pour faire face au combat. Jésus n'a pas reculé. Il était comme un vermisseau devant une cohorte romaine et de juifs haineux. Mais il est allé au combat et il a vaincu le mal. La mort n'a plus de pouvoir. Ce que Jésus a fait paraît fou, en fait. Si vous dites autour de vous ce que Jésus a fait, il est mort, il s'est laissé clouer sur une croix par des ennemis, les gens vont dire, il est fou. Puis vous dites, en face, « La Bible dit que vous diriez que je suis fou. » C'est vrai. C'est vrai. Ça paraît fou. Mais donc, soyons fous aux yeux de ceux qui se croient sages quelque part. J'ai pas dit faire les fous, hein. Mais dans le sens de dire, prêchons la croix de Christ, celui qui a pris sur lui le péché de toute personne qui croit à son œuvre et à sa personne divine et humaine, celui qui est ressuscité après 3 jours, vainqueur de la mort, et maintenant assis à la droite de Dieu. Il reviendra pour juger les vivants et les morts, et alors ce ne sera plus possible de changer de camp. Mais celui qui saisit cela et qui est saisi par l'Esprit, il dira plus que c'est fou. Il dira c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Si quelqu'un entend la voix du Christ qui dit « Mais c'est beau ce qu'il a fait, j'ai jamais goûté, mais c'est beau. » Ben goûte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La foi courageuse d'Abraham nous enseigne que Dieu peut employer nos moyens les plus faibles pour accomplir des prodiges. L'élément suivant, le quatrième élément, la foi généreuse. Après cette victoire extraordinaire d'Abraham, le roi de Sodome vient à sa rencontre. Mais avant qu'il n'arrive, un autre personnage envoie du pain et du vin à Abraham. Ce personnage est sacrificateur du Dieu Très-Haut et qui bénit Abraham. Abraham comprend qu'il est en présence d'un représentant de Dieu. Il se nomme Melchisédek, roi de Salem. Le psaume 110 et l'épître aux Hébreux nous aident à comprendre que ce personnage est une préfiguration de Christ. Abraham a compris que la victoire qu'il a vécue vient de l'Éternel. Donc Abraham, comme acte d'adoration envers l'Éternel, donne la dîme de tout, hein, la dîme de cette bataille. D'ailleurs, en hébreu, si on avait été encore 2 versets plus loin, on aurait vu que c'était la dîme de cette victoire ici, hein. Il dit « Dieu m'a fait gagner ». Donc je veux le manifester par l'adoration à Dieu, et puis il donne à un représentant de celui qu'il veut adorer cette dîme. Abraham donne cette dîme sans qu'il y ait de loi pour donner ce montant, il le fait librement. Et Abraham montre un exemple de foi généreuse. Il donne à celui qui représente le Dieu très haut. Qui ensuite va utiliser ça de manière à représenter le Dieu très haut. Abraham montre un exemple de foi généreuse, il donne à celui qui représente le Dieu très haut. Et ensuite, quand le roi de Sodome, donc ça c'est le roi de Salem qui est venu, Melchisédek, hein, il donne. Puis ensuite, il y a le roi de Sodome qui vient et qui veut que Abraham lui donne. C'est intéressant ce qui se passe là. Et Abraham refuse. Je viens de dire qu'il est généreux là. Mais là, il refuse. Car il comprend bien que ce méchant roi désire le rendre redevable. Le roi de Sodome voulait un pouvoir sur Abraham en disant qu'il l'aurait enrichi. Mais le patriarche comprend, il comprend la ruse et il s'en débarrasse tout de suite. Il dit non. Il est clairvoyant face au roi de Sodome et généreux face au roi de Salem. Donner généreusement avec foi, voilà ce qu'Abraham nous apprend de sa rencontre avec Melchisédek qui le comble de bénédiction. Jésus a donné avec une générosité inégalée. Il a laissé sa gloire, sa position, son bien-être, son honneur pour s'abaisser et aller jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Or, nous n'avons pas à donner notre vie pour sauver les autres d'une mort éternelle. Ça, c'est que Jésus-Christ qui l'a fait. Quand les gens disent « on va faire comme Jésus-Christ », je dis « on n'a pas son ministère ». Par contre, on va suivre son modèle dans son attitude. Ce n'est pas Jésus qui appelle, pas de souci. Jésus a donné sa vie pour nous et nous lui appartenons. Ce n'est pas de la générosité de tout lui donner d'ailleurs, hein. Ça c'est assez intéressant à comprendre. Jésus nous a donné sa vie pour nous, nous lui appartenons. Ce n'est donc pas de la générosité de tout lui donner, car tout ce que nous sommes et avons est à lui. Vous comprenez ? Donc Jésus a donné sa vie pour nous, nous lui appartenons, ce n'est pas de la générosité de tout lui donner, car ce que nous avons et ce que nous sommes est à lui. C'est normal. Par contre, nous pouvons manifester sa générosité autour de nous, surtout envers les frères en la foi, selon Galates 6:10. Donc comme ça lui appartient, on va pouvoir l'utiliser pour être généreux de sa part autour de nous. Galates 6:10 nous dit ceci: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Abraham, dans la foi, a donné à celui qui représentait le Très-Haut. Ainsi, il manifestait que cette victoire appartenait à Dieu en donnant la dîme. Ce que nous donnons au corps de Christ doit être fait dans la même attitude et la même foi généreuse d'Abraham, parce qu'il avait reçu du pain et du vin et qu'il avait été béni. Il a donné avec joie dans un acte d'adoration. Pour terminer, observons Abraham en discussion avec Dieu, la foi qui intercède. Donc dans Genèse 18 à 19, on a toute une histoire là, de rencontre d'Abraham avec Dieu. Il reçoit une visite, et il les accueille avec toute la chaleur orientale habituelle. Et lorsqu'ils repartent, l'un d'eux lui parle de ce qu'il va arriver. Ça c'est Genèse 18, verset 17, si vous regardez dans vos Bibles. « Or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme et leur péché est si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » Et Abraham sait que son neveu Lot habite dans cette ville où l'Éternel va aller. Et il désire que l'Éternel la préserve. Donc il s'approche peut-être un peu timidement, en tout cas avec révérence de Dieu, mais avec une intention claire. Abraham fait appel à la justice de Dieu. « Feras-tu mourir le juste avec le méchant ?» Ça, c'est l'argument qu'il avait dans sa tête pour aller vers Jésus. Et il entame une négociation avec Dieu pour 50. 45. 40. 30. 20. 10. Donc, il y a toutes ces étapes. Hein, je les fais rapidement ici. Et Dieu lui accorde de ne pas... Pourquoi il s'arrêtait à 10? Or, Dieu lui accorde de ne pas détruire la ville s'il trouve 10 justes. En fait, Abraham a sûrement rapidement fait les comptes de sa famille, de son neveu. Donc, son neveu, sa femme, ses deux filles, au moins, donc ça, on sait qu'il y a deux filles, deux fils, deux filles mariées, et donc deux gendres. Donc, on arrive gentiment à 9 ou 10, enfin, on arrive quasiment à 10. Donc, si Lot a bien enseigné ses enfants et a influencé quelques personnes dans la ville, ça devrait facilement arriver à 10. Abraham a de l'audace dans sa prière, c'est vrai. Il demande avec hardiesse, avec persévérance. Et comment est-ce que Dieu répond à Abraham? Eh bien, en envoyant des anges extirper Lot du lieu du jugement. Les anges avertissent, ils insistent, ils font sortir Lot de force de la ville pour le faire fuir. Et Lot, entouré de la torpeur du péché, n'aurait pas pu sortir de lui-même de ce lieu, en fait. La réponse à la prière d'Abraham, c'est qu'il a envoyé des anges pour tirer, pour arracher Lot hors de cette ville. Lot ne serait pas sorti de lui-même. Abraham a prié avec foi. Dieu l'a exaucé. Sodome, qui ne contenait aucun juste, a été jugé, mais Lot a été arraché de ce lieu maudit. Abraham a prié avec foi, Dieu l'a exaucé. Sodome, qui ne contenait aucun juste, a été jugé, mais Lot a été arraché de ce lieu maudit. Et ça me fait penser à cette prière pour celui qui est dans cette situation d'une maman qui priait pour son fils. Elle vivait au nord de l'Afrique, elle s'appelait Monique. Son fils faisait toutes sortes de bêtises. Et chaque jour, avec larmes, elle priait Dieu de le transformer. Et un jour, il projeta de partir pour l'Italie. Alors Monique, sachant que son fils pourrait mal finir, priait Dieu pour éviter ce voyage. Et c'est dans les larmes et la prière qu'elle vit partir son fils. Mais Dieu veillait. Et en Italie, ce fils rencontra un homme qui lui parla de Dieu, de l'Évangile, et qui fut transformé par Dieu. Il ne fut plus jamais le même. Et l'Éternel utilisa cet homme pour fortifier beaucoup de chrétiens. Dieu avait répondu aux prières de Monique, la maman de celui que l'on appelle Saint Augustin. Abraham, par sa foi qui intercède, nous donne un exemple. Il n'a pas peur d'en appeler à la justice de Dieu. Jésus lui-même intercède pour nous. Il est dit dans Romains 8, 34, « Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Maintenant, c'est extraordinaire. En 1 Jean 2, 1, il est dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, le juste. » Jésus, comme Abraham, ne désire pas que Dieu excuse le péché. Non, Abraham ne voulait pas que Dieu excuse le péché. Il dira plutôt, « Feras-tu mourir le juste avec l'injuste hein? ?» Donc Jésus, comme Abraham, ne désire pas que Dieu excuse le péché, mais il demande la miséricorde pour le pécheur. Il demande la miséricorde pour le pécheur. Donc soyons quelque part aussi hardis, audacieux et intimes dans nos prières devant Dieu que Abraham. Et c'est certain, Dieu agira. Pour Monique, il disait « Seigneur, que mon fils ne parte pas en Italie !» Il est parti. Il n'a pas répondu. Mais si qu'il a répondu, parce que c'est là-bas qu'il voulait toucher son cœur. Vous voyez, Dieu répond à sa manière. La foi dans la prière d'Abraham est un exemple stimulant pour nous. C'est un exemple de foi. Nous avons vu là, dans la première prédication la naissance de la foi avec ses caractéristiques. Aujourd'hui, de nouveaux éléments sont venus s'ajouter à cette foi. La foi accueillante d'Abraham avec son neveu Lot, une foi journalière. La foi altruiste qui cherche la paix avec Lot dans les conflits quotidiens. La foi courageuse qui se lève pour se battre afin de délivrer son neveu. Il arrive régulièrement dans la vie où il faut y aller. La foi généreuse qui donne la dîme de tout à Melchisédek, une foi généreuse en lien avec la victoire que Dieu a donnée. Et la foi qui intercède en faveur de Lot, ainsi que des villes de Sodome et de Gomorre. Donc la foi d'Abraham est mise en pratique. Il ne dit pas seulement qu'il croit en l'Éternel, il ne dit pas « je crois en l'Éternel ». Il construit des autels, il prie, il agit. Il ne vit pas seulement sa foi dans le cœur, ses actions vont démontrer sa foi. Il ne fait pas que des actions d'éclat, il vit sa foi de façon quotidienne dans les circonstances que Dieu permet. La pratique de sa foi est aussi une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Quand il va délivrer l'autre, ce n'est pas que l'autre qui a été délivré d'ailleurs. Hein? Une bénédiction. Et personne n'a été lésé lorsque Abraham pratiquait sa foi. Il y a eu des moments de faiblesse, mais il est toujours revenu à l'Éternel. On le verra la prochaine fois. Notre foi est placée en Christ, celui qui est venu, qui a montré sa puissance, sa force, même dans la faiblesse, qui est l'autorité tout en servant humblement. Il accueille, il aime, il réconcilie, il soutient le courage, il encourage la générosité et il intercède pour ses élus. Or, dans la pratique de la foi, il y a toujours une bénédiction pour les autres et pour nous-mêmes. Alors pourquoi pas cette semaine se poser cette question que vous pourrez vous poser dans différentes circonstances. Comment vivre cela, voilà ce que je vis là, ou ce qui arrive, ou ce que j'apprends. En fait, comment vivre cela de manière à pratiquer ma foi en Jésus-Christ? Comment le vivre là? Mon enfant ne veut pas obéir. Ah non, ça n'arrivera pas, mais bon, si ça arrive. Comment vivre cela de manière à pratiquer ma foi en Jésus-Christ? J'ai des examens cette semaine. Comment vivre cela en pratiquant ma foi en Jésus-Christ? Je dois apprendre des nouvelles technologies dans mon travail. Comment vivre cela en mettant ma foi en pratique, etc. Rappelons-nous que la foi que vivait Abraham pointait vers Christ, en qui nous pouvons trouver toutes nos ressources pour vivre une foi accueillante, altruiste, qui cherche la paix, courageuse, généreuse et qui prie. Que l'Éternel nous fasse la grâce d'être remplis de Christ et ainsi d'être des personnes de foi, instruments de bénédiction. Et nous allons justement prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous stimule, nous encourage, nous guide, nous rassure. Merci pour ce personnage d'Abraham, cette personne bien réelle qui a vécu il y a maintenant 4000 ans, qui a vécu des choses qui étaient heureuses, des choses qui étaient difficiles, qui était aussi face à des situations où il fallait prendre des décisions, qui a pris soin de son neveu, qui était orphelin, qui n'avait plus de grand-papa. Et Seigneur, tu vois qu'il l'a pris sous son aile, qu'il lui a partagé sa foi, qu'il a même pris soin de lui, même après encore, quand il était dans des situations difficiles. Et tout cela, il l'a fait chaque fois, avec cette foi qu'il plaçait en toi. Aide-nous, Seigneur, dans notre vie quotidienne, à vivre d'une manière à ce que notre foi placée en toi nous rende paisible lorsque nous vivons. Donne-nous, Seigneur, de ne pas chercher à toujours avoir nos propres intérêts, mais chercher tes intérêts, afin que ta bénédiction repose sur nous et ceux qui sont autour de nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons trouver en toi tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans et par la foi. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que chacun ici puisse le vivre et que si quelqu'un ne connaît pas cette foi, je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher le plus profond des cœurs. Je te demande pas, Seigneur, d'une connaissance théorique, je te demande d'une connaissance spirituelle profonde que toi seul peux donner. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.